Lizzie présente Le meurtre du commandeur. Livre 2. La métaphore se déplace. De Haruki Murakami. Lu par Christophe Roux. Chapitre 33. J'aime les choses que je vois et autant celles que je ne vois pas. Le dimanche fut aussi un jour de très beau temps. Il n'y avait pas de vent et le soleil automnal faisait joliment resplendir les feuilles des arbres des montagnes en leur conférant toutes sortes de nuances variées. De petits oiseaux à gorge blanche voltaient de branche en branche, picorant des baies rouges avec habileté. Assis sur la terrasse, je ne me lassais pas de contempler ce paysage. La beauté de la nature est prodiguée impartialement aux riches comme aux pauvres, comme le temps. Non, le temps ce n'est pas la même chose. Avec de l'argent, je crois que les favorisés de ce monde peuvent s'acheter du temps en plus. À 10 heures précises, la Prius bleu vif arriva sur la route escarpée. Shoko Akigawa portait un pantalon de coton vert clair, de coupe étroite, et un léger pull à col roulé beige. À son cou brillait une discrète chaînette en or. Comme le dimanche précédent, elle était impeccablement coiffée. Chaque mouvement de ses cheveux dégageait furtivement sa nuque délicate. Ce jour, elle n'avait pas de sac à main, mais une sacoche en daim portée en bandoulière. Elle avait enfilé des chaussures bateau marron, une tenue décontractée mais pensée jusqu'au moindre détail. Ses seins dessinaient une très jolie courbe, confirmant ainsi les dires de sa nièce. Selon ses informations confidentielles, sa poitrine ne nécessitait aucun rembourrage. Je ne pus m'empêcher d'être attiré par ses seins, uniquement d'un point de vue esthétique, je précise. Marie Akikawa était vêtue d'une façon totalement différente de la semaine précédente, avec un jean droit délavé et des converses blanches. Le jean était troué ici ou là, bien sûr des déchirures pratiquées à dessein, avec soin. Elle portait une fine parka grise sur laquelle elle avait posé une épaisse chemise à carreaux de bûcheron. Sa poitrine n'accusait toujours pas le moindre renflement, et comme toujours, elle arborait une mine maussade, celle d'un chat à qui l'on enlève son assiette alors qu'il est en train de manger. J'allais à la cuisine préparer du thé et le rapporter au salon. Puis je montrais à mes visiteuses les 3 dessins que j'avais faits le dimanche précédent. Shoko eut l'air de les apprécier. Ils sont très vivants. Ils montrent la véritable mariée, bien mieux qu'une photo. Je pourrais les avoir ? Me demanda mariée. Oui, naturellement, répondis-je, une fois que j'aurai terminé la peinture. Jusque-là, j'en aurai peut-être besoin.
Voyons, mariée, mais vous êtes sûr que cela ne vous ennuie pas de les lui donner ? Demanda Shoko d'un air soucieux.
Non, pas du tout, dis-je. Quand la peinture sera achevée, je n'en aurai plus l'utilité.
Un de ces dessins vous servira d'esquisse ? Interrogea Marier.
Non, répondis-je en secouant la tête. Ces dessins, je les ai faits afin de te comprendre avec tous tes reliefs. Mais ce que je peindrai sur la toile sera une représentation de toi encore différente, je pense.
Cette image-là, vous l'avez déjà dans votre tête ?
Je fis signe que non. Pas encore. Il faudra que nous travaillions dessus tous les deux.
À me comprendre en 3 dimensions ? Dit Marié.
Oui, une toile physiquement c'est une simple surface plane, mais il faut que le tableau soit peint en montrant tous les reliefs. Tu comprends ? Marié parut avoir du mal à saisir. Le mot relief devait évoquer pour elle le gonflement de sa poitrine. Et en effet, après avoir jeté un coup d'œil rapide sur les seins de sa tante, bien dessinés sous son pull léger, elle me regarda.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour être aussi bon que vous ?
En dessin, tu veux dire ? Marié acquiesça.
Oui, en dessin ou en croquis ?
Des exercices. À force de s'entraîner, on devient meilleur.
Mais il y a plein de gens qui s'entraînent encore et toujours sans pour autant devenir meilleur.
Ce qu'elle disait était vrai. J'avais fréquenté les Beaux-Arts et j'avais vu bon nombre de camarades ne jamais s'améliorer, même en travaillant du mieux qu'ils le pouvaient. Quels que soient les efforts que l'on fournit, ce sont les dispositions naturelles qui déterminent la compétence. Mais si je mettais cette question sur le tapis, notre conversation deviendrait inextricable. Cela ne veut pas dire que l'on n'a pas besoin de s'entraîner. Bien des talents ou des dispositions ne se dévoilent qu'avec un travail acharné. Shoko Akikawa hocha vigoureusement la tête. Marie se contenta de tordre la bouche de côté, l'air de dire « Ah bon, vraiment ?»« Tu veux progresser en dessin, n'est-ce pas ?» demandai-je à Marie. Elle opina.
« J'aime les choses que je vois et autant celles que je ne vois pas. »
Je la scrutai. Il y avait une lueur spéciale dans son regard. J'avais du mal à saisir ce qu'elle avait voulu dire concrètement, mais plus que par les paroles qu'elle avait prononcées, j'étais surtout attiré par cette lumière au fond de ses yeux.
« C'est vraiment une drôle d'opinion !»
dit Shoko.
« On dirait que tu nous poses une devinette. »
Marie ne répondit pas à cette remarque, se bornant à fixer ses mains en silence. Quand elle releva la tête, la lueur singulière qui dansait dans ses yeux avait disparu. Elle n'avait existé que l'espace d'un bref instant. Marie et moi entrâmes dans l'atelier. Comme la semaine passée, Shoko avait sorti de son sac un gros livre de poche. À son apparence, je supposais que c'était le même. Et appuyée contre le canapé, elle s'était aussitôt plongée dans sa lecture. Elle semblait tout à fait captivée. J'eus envie, et même davantage que le dimanche précédent, de connaître le titre de ce livre, mais je m'abstins encore une fois de lui poser la question. Comme lors de la première séance, la distance entre Marie et moi était d'environ 2 mètres, mais ce matin j'avais installé le chevalet entre nous avec une toile posée dessus. Je n'avais pourtant pas encore en main de crayon ni de couleur. Je regardais alternativement Marie et la toile vide et blanche, et je me perdais dans mes pensées. Comment transposer son image sur la toile, avec les reliefs? J'avais besoin d'une sorte de récit. Il ne suffisait pas de peindre la fillette. Cela ne constituerait pas une œuvre. Peut-être cela finirait-il par donner un portrait très ressemblant, mais rien de plus. Le plus important pour moi était de découvrir le récit que je devrais peindre ici. Juché sur mon tabouret, j'observais longuement le visage de Marie, assise sur la chaise de la salle à manger. La fillette ne détourna pas le regard. Presque sans ciller, elle me scrutait elle aussi, droit dans les yeux. Ce n'était pas un regard de défi, mais j'y lisais une ferme résolution. Je ne reculerai pas. Ses traits réguliers, qui la faisaient ressembler à une poupée, donnaient d'elle une impression fausse, car en réalité, c'était une enfant à la personnalité très déterminée. Elle suivait son chemin sans dévier. Une fois qu'elle avait tracé une ligne, elle la suivait obstinément. En regardant bien, il y avait au fond des yeux de Marie quelque chose qui rappelait ceux de Menchiki. J'avais déjà eu ce sentiment, mais cette similitude m'étonna à nouveau. Il y avait là un étrange scintillement que je décrirais comme une flamme qui aurait subi une congélation instantanée. Cet éclat contenait de la chaleur, mais il était en même temps totalement froid. Il faisait penser à une gemme spéciale ayant en son cœur sa propre source lumineuse. S'entrechoquait là une force allant vers l'extérieur, une force de quête pure et une autre dirigée vers l'intérieur, cherchant à boucler la boucle. Il n'était pas impossible que ce sentiment soit lié à la confession que m'avait faite Menchiki, à savoir que Marie était peut-être sa fille biologique. C'était sans doute pour cela que j'essayais inconsciemment de découvrir entre deux quelque chose comme une correspondance, un accord. En tout cas, il fallait que je transcrive sur ma peinture la singularité de l'éclat de ses yeux. Comme un élément qui constituait le noyau du visage de Marie, qui traversait et bouleversait sa belle apparence lisse. Mais je n'avais pas encore découvert le contexte qui me permettrait de transposer sur la toile cet élément central.